Radio Kapi.
C'est tout à l'heure que les nations du monde se retrouvent à New York au siège de l'ONU pour la 77e Assemblée Générale. Divers chefs d'État vont prendre la parole, dont le Congolais Félix Tshisekedi, qui ne manquera point en tout cas d'évoquer la question de l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Précision à suivre tout de suite en ouverture de ce journal. La libre circulation sous la route Bunia-Komanda-Luna, c'est tout ce que les usagers de cet axe rêvent de tout temps pendant qu'ils connaissent des véritables et inadmissibles difficultés pour être escortés par l'armée régulière et faire face aux menaces d'exaction des groupes armés. Information à suivre dans ce journal. Bonane Yanganzi, député national élu du territoire des Dungu dans la province du Haut-Uele, qui est notre invité en fin de cette édition, alerte sur des cas croissants d'insécurité dans les territoires dont les auteurs proviendraient des zones sous état de siège. Merci du choix porté sur Radio Okapi pour votre information, fidèles auditeurs. Bon réveil, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. La 77e Assemblée Générale de l'ONU s'ouvre ce lundi à New York, aux États-Unis d'Amérique. Un dispositif sécuritaire a déjà été mis en place depuis ce week-end, selon notre envoyé spécial. Selon Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, qui l'a pu approcher, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est attendu à cette Assemblée Générale, va prendre la parole cette fois-ci dans un contexte particulier où son pays, la RDC, subit une agression par l'un de ses voisins. Giscard Koussema le dit au micro de Alain Irongo, notre envoyé spécial à New York.
En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ici, à New York. Et du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République devrait prendre la parole pour faire entendre une fois de plus la voix de son pays. On attend de lui, en tout cas, de prise de position par rapport à la politique interne, par rapport à ces contextes particuliers de l'agression de notre pays par l'un de ses voisins, le Rwanda. En marge de l'Assemblée générale, il y a toujours des réunions multilatérales et bilatérales. C'est dans ces cadres que le président de la République s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement, mais aussi de quelques cadres de son cabinet, de ses conseillers. Donc il est là pour cette Assemblée, mais aussi pour toutes ces réunions bilatérales et multilatérales.
Notez que plusieurs présidents vont s'exprimer du mardi 20 septembre au lundi 26 septembre 2022 à la tribune de l'ONU. Et à l'occasion de cette 77e Assemblée Générale des Nations Unies, Radio Okapi initie une série de reportages pédagogiques sur l'ONU, Organisation des Nations Unies. Commençons ce matin par la présentation de ce forum mondial où les pays peuvent soulever des questions, discuter des problèmes les plus complexes et y apporter une réponse commune. Alain Irung, notre envoyé spécial à New York.
L'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945. Aujourd'hui, elle compte 193 États membres. La mission et le travail des Nations Unies sont guidés par les objectifs et principes énoncés par sa charte fondatrice. Convention internationale, la Charte des Nations Unies codifie les grands principes des relations internationales depuis l'égalité souveraine des États jusqu'à l'interdiction d'employer la force dans ces relations. La charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945. Et entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Le statut de la Cour internationale de justice fait partie intégrante de la charte. L'ONU constitue un forum où ses membres peuvent exprimer leur point de vue à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité, au Conseil économique et social, ainsi que dans d'autres organes et commissions. Grâce à son rôle dans le dialogue et la négociation, l'organisation est devenue un mécanisme permettant au gouvernement de trouver des domaines d'entente et de résoudre ensemble des problèmes. Tous les États membres de l'ONU sont membres de l'Assemblée générale. Les États sont admis en tant que membres par une décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. De New York, Alain Irung, Radio Okapi.
Ici au pays, une question est posée presque continuellement à la chef de la MONUSCO depuis quelques semaines. À quand le retrait définitif de la mission onusienne du territoire congolais ? Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, affirme que ce retrait est acté depuis 2014, bien avant les manifestations contre la MONUSCO des dernières semaines. La MONUSCO n'est plus active dans le Kasaï depuis juin 2021 et dans le Tanganyika le 30 juin 2022. Elle l'a dit au cours de l'édition spéciale du magazine interactif Parole aux auditeurs de Radio Okapi enregistré le vendredi 16 septembre 2022. Écoutez un extrait des propos de Bintou Keïta choisi par Innocent Fazili.
En fait, le retrait qui est demandé par tous est un retrait qui est acté depuis de très nombreuses années, puisque il y a plusieurs années en arrière, les casques bleus étaient partout sur le territoire congolais. Maintenant, nous sommes essentiellement dans les deux provinces du Kivu, donc le sud Kivu, le nord Kivu, et aussi en Ituri. Et donc, si les gens suivent exactement le travail de la MONUSCO, ils se rendent bien compte que nous ne sommes pas en train de rester là où le gouvernement, les partenaires, les agences fonds et programmes ont pris, d'une certaine manière, sont en charge, ont pris la relève. Et donc, nous concentrons sur les trois dernières provinces qui sont donc les deux Kivu et l'Ituri.
Vous suivrez l'intégralité de l'intervention de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, ce lundi 19 septembre à 9h05, heure de Kinshasa, dans le magazine Parole aux auditeurs. De son côté, le mouvement citoyen Forum Citoyen, une structure qui regroupe les jeunes de la RDC, recommande à la MONUSCO de rendre public le plan de retrait de cette mission onusienne tel que convenu avec le gouvernement. C'est l'essentiel de l'échange entre les représentants de ce mouvement et la chef de la MONUSCO ce week-end. Martin Milolo, coordonnateur du Forum Citoyen, appelle également au renforcement des capacités opérationnelles des casques bleus afin de mettre un terme à la présence des groupes armés en RDC. Il le dit à Paul Matendo.
Nous, aujourd'hui, on a retenu qu'il y a un certain nombre de choses positives que la MONUSCO fait, mais qui ne sont pas connues. Il y a aussi la responsabilité du gouvernement sur certaines choses qu'elle doit faire, mais que l'opinion essaye de mettre sur les comptes de la MONUSCO. Et nous avons dit que c'est de la faute de la MONUSCO aussi de ne pas communiquer sur les responsabilités qu'elle a et la responsabilité du gouvernement suivant le plan de transition. Nous avons recommandé à la MONUSCO de pouvoir d'abord communiquer davantage sur le plan de transition, sur les choses qui se sont échangées avec le gouvernement congolais. D'abord ça. Ils doivent aussi avoir le courage de demander le renfort en termes d'équipement, en termes de renforcement des capacités. Et nous avons demandé qu'ils puissent transmettre notre message au niveau du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, par exemple, Bougnagana et Omé de M23, les Nations Unies ne peuvent pas s'avouer inefficaces par rapport à un groupe armé, même s'il est soutenu par le Rwanda.
Pendant ce temps, à Bukavu, au sud Kivu, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire a eu un tête-à-tête avec la presse locale ce week-end. Dans son mot introductif, Bruno Lemarquis a mentionné que la RDC occupe la première place des cas de malnutrition sur l'échiquier mondial. Elle est aussi la première en Afrique en termes des déplacés internes. La province du Sud Kivu a elle seule à 16% de la population qui connaît l'insécurité alimentaire. Jean Kassami.
D'après le coordonnateur des affaires humanitaires en République démocratique du Congo, le pays compte 27 millions de personnes qui souffrent de la malnutrition. Toujours et encore, la RDC renferme 5,5 millions de déplacés internes. Bruno Lemarquis propose quelques pistes de solutions.
Que les partenaires qui travaillent dans le développement, les partenaires qui travaillent dans l'humanitaire, travaillent de manière coordonnée avec les autorités provinciales pour s'attaquer à certaines des causes qui créent les besoins humanitaires, par exemple la question des infrastructures routières, des infrastructures de transformation agricole, etc.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies a tenu aussi à lever l'équivoque en établissant la nuance entre la MONUSCO et les Nations Unies.
C'est vraiment important que vous compreniez que la MONUSCO, c'est un membre d'une famille, des Nations Unies. La famille en RDC, elle a 24 membres. Et on peut rajouter au moins une dizaine d'autres membres de la famille qui travaillent avec la RDC, mais qui ne sont pas en RDC. Beaucoup de gens, Nations Unies égale MONUSCO. Enlevez-vous ça de la tête.
Bruno Marquis a informé la presse qu'il a échangé avec le gouverneur du site Kivu sur la transition de la MONUSCO en RDC. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Cette nouvelle en rapport avec la sécurité, les forces de la République démocratique du Congo ont mis la main sur Kambale Paluku Jean-Baptiste alias Kiamdenga. Ce dernier est le chef du groupe Kiamdenga qui collaborait avec les ADF FMTM qui opèrent à l'ouest de la cité des Ringeti dans le territoire de Beni. Nous sommes là au nord Kivu et Otomaber ainsi que dans la périphérie de la localité de Biakapto dans le territoire de Mambasa. Nous sommes là dans la province de l'Ituri.
Selon le porte-parole des opérations Sokola Ingrand Nord qui annonce la nouvelle, ce chef rebelle a été arrêté avec ses 10 combattants Maïmaï qui assurent sa sécurité. Ils étaient en pleine réunion de planification de massacre le soir de ce dimanche dans la ville de Butembo. Deuxième titre de ce journal, les transporteurs et les passagers du tronçon Bunia-Komanda-Luna en Ituri vivent un calvaire pendant qu'ils attendent que soit organisé le convoi escorté par les FRDC. Certains passent même un mois à Luna et Komanda. Quelques chauffeurs accusent les FRDC de leur exiger de l'argent pour aligner leur véhicule dans le convoi. D'autres qui empruntaient le tronçon Beni-Mambasa-Bunia se disent bloqués à cause de l'activisme des rebelles ADF dans le territoire de Mambasa. Il demande au gouvernement d'écarter les menaces de ce groupe armé pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Isaac Remoyope.
Plusieurs véhicules sont bloqués à Luna, à la limite avec le Nord Kivu et à Komanda pour attendre l'escorte des militaires des FARDC. Selon des sources concordantes, des centaines de passagers qui n'ont plus de moyens pour leur survie vivent dans des conditions difficiles. Certains passent la nuit dans les véhicules ou sous les vérandas des bureaux ou des maisons des autochtones. Face à ces calvaires, certains chauffeurs sont obligés de payer 20 dollars aux FARDC pour être alignés dans les convois. D'autres qui sont étouffés par les taxes attendent impatiemment d'être programmés. Selon eux, ils contournaient vers Biakato, Mambasa pour arriver à Komanda. Mais cette route est inaccessible depuis un mois à cause de la présence des ADF qui a intensifié les attaques dans la région. Un passager exprime son désarroi. Les problèmes de convoi, c'est très compliqué. Il y a des gens qui ont déjà passé un mois ici sans bouger. Les FARDC exigent 20 dollars par véhicule. Sans cela, tu restes. Les conditions de vie ici sont très difficiles. Les femmes enceintes, les enfants, les bébés, qu'on suspende carrément la circulation pour qu'on sache qu'on ne peut plus voyager. Ça, c'est faire souffrir la population.
Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que les FARDC mènent des opérations dans la région pour neutraliser les rebelles des ADF en vue de faciliter la libre circulation sur cette route nationale numéro 4. Par rapport au monnayage du convoi, il déclare que des enquêtes sont ouvertes pour vérifier ces allégations. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'actualité nous amène dans la province du Congo central où tout véhicule transportant des produits pétroliers doit être soumis désormais à l'expertise et à la validation de l'administration des hydrocarbures du Congo central. Et il ne peut en aucun cas circuler dans les grandes agglomérations de la province pendant les heures de pointe. Cette décision est contenue dans une note circulaire du ministère provincial des hydrocarbures rendue publique ce samedi relative aux mesures urgentes prises en matière de transport des produits pétroliers dans la province du Congo central. En quoi particulier à la ministre provinciale des hydrocarbures, cette instruction émane du gouverneur de province Guy Bandou à la suite de la récurrence d'accidents sur la route nationale numéro 1 causée par les incendies dus aux produits inflammables occasionnant des pertes en vie humaine. Le point avec Nana Plurich Mambou.
La note circulaire du ministre provincial chargé des hydrocarbures Patrick Yala précise que tout véhicule transportant les produits agricoles doit être soumis à l'expertise et à l'homologation auprès de l'administration des hydrocarbures. Dans ces mêmes documents, Patrick Yala interdit aussi formellement à ces véhicules de circuler, moins encore de stationner pendant les heures de pointe dans les grandes villes, cités et agglomérations de la province. Il est prohibé le transport dans un même véhicule des produits dangereux avec les passagers ou avec les produits agricoles et alimentaires. Il est également interdit le transport des produits pétroliers dans les véhicules non appropriés tels qu'une jeep, un camion ordinaire, une voiture, un bus ou un minibus. Et les propriétaires des deux véhicules doivent impérativement détenir une autorisation ou un permis valide de transport et de stockage de produits pétroliers, poursuit cette lettre. Devient aussi obligatoire les symboles et mentions sur tout véhicule transportant les produits dangereux, des réflecteurs avant et arrière signalant produits inflammables, produits toxiques, défense des fumées, ainsi que les noms de la société ou établissement qui les transporte. Les transports de ces matières dans les camions citernes ou autres ne disposant pas d'une fiche de contrôle technique fiable et valide délivrée par les services habilités sont strictement interdits.
Avant de passer à la page internationale, c'est le devoir de l'État congolais de réhabiliter la mémoire du maréchal Mobutu Sese Seko Kukumendu wa Zabanga en lui organisant des obsèques dignes de son rang. Propos ce week-end au cours d'une conférence de presse à Kinshasa de Joseph Désiré Mobutu Kambale, l'un des fils Mobutu à l'intention du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Il demande au chef de l'État de rapatrier le corps de l'ancien président qui repose à Rabat au Maroc depuis 25 ans.
Actualité internationale.
Un ex-président de l'Assemblée nationale au Gabon, chef d'un parti d'opposition, a été arrêté samedi à la frontière en rentrant du Congo avec 3 valises remplies de billets représentant près de 2 millions d'euros, a appris l'AFP dimanche des sources judiciaires. Ginzouba Ndama, 76 ans, est président 19 années durant de la Chambre basse du Parlement, en avait démissionné en mars 2016 avec fracas un mois avant de se présenter à la présidentielle contre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, puis de rallier son rival Jean Ping, battu de quelques points de pourcentage par le sortant. Son arrestation survient 10 mois avant la présidentielle d'août 2023, pour laquelle Ginzouba Ndama fait figure de potentiel candidat. C'est aujourd'hui que la reine Elisabeth II décédée le 8 septembre, à l'âge de 96 ans, sera inhumé en fin d'après-midi. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde entier se sont joints dimanche aux Britanniques pour se recueillir en masse devant le cercueil d'Elisabeth II. Parmi eux, Joe Biden accompagné de son épouse Jill, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore le roi d'Espagne Felipe VI.
L'invité.
Notre invité, c'est Xavier Bonané Yanganzi, député national élu du territoire des Dungu dans la province du Haut-Uele. Il nous parle de l'insécurité qui règne dans plusieurs localités de ce territoire. Insécurité causée selon lui par des personnes armées qui seraient venues des provinces sous état de siège. Xavier Bonané Yanganzi s'entretient avec Paul Matendo.
Bonané Yanganzi, bonjour.
Bonjour Paul Matendo.
Vous revenez des vacances parlementaires et vous nous parlez de l'insécurité qui règne là-bas, à Dungu. Que se passe-t-il exactement?
Moi, je voudrais insister sur cette insécurité persistante qui existe dans la province du Haut-Uele et précisément dans les territoires de Dungu, dans une certaine mesure, dans l'autre territoire de Wata. Vous savez que depuis les années 2008, le territoire de Dungu a été plusieurs fois et de manière récurrente victime des attaques des groupes terroristes qu'on appelle LRA, qui sont des rebelles ougandais. Mais à cela, il faut aussi ajouter un autre groupe armé qui est beaucoup plus destructeur. Ce sont les éleveurs nomades Mbororo qui sont aujourd'hui surarmés et qui occupent des pans entiers de notre territoire, pas seulement dans la province du Haut-Uele, mais aussi dans les Bas-Uele. Alors ça, ce sont des entités qu'on peut considérer comme des groupes armés, des rébellions qui étaient un peu à basse intensité et qui sont plus ou moins résiduels.
Vous parlez de ce groupe que vous qualifiez de résiduel. Y a-t-il d'autres groupes armés que vous soupçonnez?
Avec ce qui se passe à l'Ituri, avec le Codeco, et ce qui se passe au Nord Kivu, avec les EDF, il y a des infiltrations qui se manifestent dans les territoires de Dungu, aux environs des localités de Ndanda, des localités de Ligbombi et des localités de Longbo. Eh bien, dans toutes ces localités-là, il y a des personnes, des terroristes armés qui tendent des embuscades et qui enlèvent, qui tuent des gens, qui tuent même des militaires, parce que dernièrement, ils ont tué deux éléments des FARDC. Alors, le Haut-Uele n'est pas sous état de siège, contrairement à l'Ituri et au Nord Kivu. Et la population du Haut-Uele ne souhaite pas non plus qu'on mette le Haut-Uele sous état de siège, vu le résultat que ça a produit dans les provinces où on a essayé ça. Mais il faut que nos forces de sécurité empêchent qu'il y ait une jonction entre ces hommes-là, des IDF et des Codeco, avec nos forces ici, des Mbororo et des LRA, et ça sera un foyer de violence qui va exploser dans les territoires de Dungu et dans les territoires de Wacha, parce qu'ils s'attaquent essentiellement aux carrières de mines. C'est là où ils tendent des embuscades pour piller. Ils sont très bien informés. Quand ils savent qu'une quantité plus ou moins importante de l'or va sortir, ils viennent et ils s'attaquent.
N'y a-t-il pas de forces de sécurité dans cette partie du pays?
Nos forces de l'ordre ont fait quand même un travail. Le secteur opérationnel de l'Ouélé, ils ont arrêté 14 de ces assaillants. Eh bien, sur les 14 assaillants, tous les 14 viennent du Nord Kivu. Ce sont des ressortissants du Nord Kivu qu'on a arrêtés à Ligbombi, à Ndanda, donc dans le territoire de Dungu. Et Si on a pu arrêter 14, peut-être ils sont 100, ils sont 150, ils sont 200. Alors nous voulons vraiment attirer l'attention des autorités nationales, des autorités gouvernementales, des autorités militaires et la sécurité au niveau national, de veiller sur cette affaire-là, parce que pendant que nous allons être là en train de penser que le danger c'est seulement le Nord qui vous est seulement l'Ituri, il y a un grand risque que ces gens-là exportent leur violence dans le territoire de Dungu et dans la province du Haut-Touélé.
Bonne année Angazi, merci beaucoup.
Merci beaucoup Paul Matendo.
Et voilà comment se referme cette édition de journal sur Radio Okapi, journal préparé par Noëlla Luzitu, Pierrot Elameji, Billy Van Lutumba vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci.